Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. Nous retrouvons avec grand plaisir notre collaboratrice Sophie Hartung. Comme à toutes les trois semaines, Sophie nous propose la lecture de textes qui nous invitent à réfléchir à l'importance de la marche dans notre cheminement personnel. Cette semaine, Sophie a choisi trois courts textes de Christophe Roux-Dufort, professeur en gestion de crise à l'Université Laval. Chercheur spirituel depuis plus de 20 ans, il a fondé en 2016 la Voix des mains, une pratique du désarmement intérieur basée sur 21 prises fermées et ouvertes des mains. Au Centre de spiritualité Manrez à Québec, Christophe accompagne des hommes et des femmes à partir de la voie ignatienne du discernement et utilise les mains comme vecteur d'accompagnement. Et, une belle surprise, un texte que Sophie a elle-même rédigé en alexandrin, intitulé « Marcher vers le bien-être ». Suivant la lecture de chacun des textes, je m'entretiendrai avec Sophie de la dimension spirituelle que l'on y retrouve et de la façon dont la marche peut nous conduire, pas à pas, vers un plus grand bien-être. Bonne écoute et bonne réflexion! Bonjour Sophie, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre chronique « La balade des mots ».
Bonjour Denis, moi aussi je suis extrêmement heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
Alors parlez-nous un peu des textes que vous allez nous présenter aujourd'hui.
Alors, en fait, je vais vous présenter trois textes qui ne sont pas mes propres mots. Donc, je vais vous emmener en promenade, en balade, avec les mots de Christophe Roux-Dufort, qui pour moi, c'est un homme extrêmement important dans ma vie, parce que je suis son enseignement spirituel maintenant depuis plus de 10 ans. Il a fondé la Voix des mains, ça on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, je crois. Et c'est un homme qui, d'une certaine façon, a transformé ma trajectoire de vie. Il m'a apporté la possibilité, et il m'apporte cette chose absolument incroyable, d'avoir un autre regard sur le monde. Et donc ces textes, j'ai eu envie de vous les partager comme avec des amis on partagerait un bon vin, quelque chose de beau, on a envie de le partager. Quand on aime quelque chose, on a envie de le partager parce que au fond, par rapport à marcher vers le bien-être, ce sont des textes qui d'une certaine façon invitent à une démarche intérieure. Comme la marche invite à une démarche intérieure. Donc je vous parlerai aussi de lui peut-être un petit peu plus en profondeur, mais vous allez le découvrir au travers de ces textes. Et je crois que voilà, ça vous permettra de découvrir ce chercheur insatiable, spirituel, depuis plus de 20 ans.
Ah, superbe. Alors, nous avons très hâte de vous écouter, de vous entendre lire ces trois textes. Mais auparavant, il y a un texte que j'apprécie particulièrement de par son titre, d'abord, « Marcher vers le bien-être », et aussi parce qu'il est rédigé en alexandrin.
Oui, ça c'est un petit peu ma patte personnelle, c'est mon amour des mots. Et voilà, je trouve que parce que l'alexandrin permet une musicalité magnifique. Et puis ce texte, c'est une manière à la fois de rendre hommage à votre émission, de rendre hommage à l'espace que vous m'offrez maintenant, qui me touche profondément. Et c'est aussi un hommage à mon chemin spirituel. Parce que pour moi, on y retrouve aussi les ingrédients de mon cheminement. Donc voilà, c'est un peu un double hommage. C'est une façon de parler avec le cœur, avec mes mots à moi, qui riment.
Alors, on vous écoute.
Marcher vers le bien-être, ça commence tout petit. Quand encore tout branlant au service de la vie, l'enfant sur ses deux jambes se dresse et s'enhardit. Mu par une force farouche vers une mère qui sourit. Marcher vers le bien-être, d'abord, c'est vers maman. Quelle foi considérable doit se mettre en mouvement pour trouver l'équilibre et oser cet élan. faire un pas après l'autre, tomber, se relever, capituler parfois pour mieux recommencer. Marcher vers le bien-être, c'est un pas qui grandit. À force de tentatives, enfin il s'aguerrit. Aller un peu plus loin, vertigineux désir de découvrir le monde et de le conquérir. Le pas se fait plus sûr, il se met à courir vers toutes ses tentations et ses moult plaisirs. Marcher vers le bien-être, c'est alors se construire. C'est le temps des avoirs, c'est le temps de bâtir. Famille, travail, loisirs, on déambule alors du point A au point B sans le moindre temps mort. Et puis un événement, souvent inattendu, nous fait réaliser qu'on s'est un peu perdu, qu'il nous manque quelque chose dans cette course folle, que ralentir le pas est loin d'être frivole. Marcher vers le bien-être redevient essentiel. Alors viennent les questions que l'on adresse au ciel. Marcher vers le bien-être, c'est oser le silence, au creux de la nature, trouver la providence, et au cœur de soi-même, oser s'aventurer sur ce chemin tracé vers l'intériorité, en sachant qu'à chaque pas, dans le doute et la foi, nous est offert le choix de suivre ou non la voie. Marcher vers le bien-être n'est-il ni plus ni moins que d'aspirer à être des hommes ou femmes de bien ? Marcher vers le bien-être n'est-il ni plus ni moins que le désir ardent d'embrasser le divin ?
Félicitations, Sophie, c'est merveilleux.
Merci.
Je retire un peu de ce texte, d'abord une pensée de Platon qui m'est très chère. Il disait « La vie est en quelque sorte un pèlerinage ». C'est dire que la vie est un cheminement, on marche toujours vers quelque chose.
Absolument. Et je pense qu'on marche, comme je dis, bon, je le décline un petit peu, mais quand on commence les premiers pas, on marche vers un premier soleil qui est papa, maman, ou la personne qui nous élève, qui nous aime. Et petit à petit, on marche. Et je pense qu'il y a un moment donné où la marche devient quelque chose peut-être presque d'habituel, de normal, de... Et puis arrive un moment donné, je pense, oui, dans la vie ou dans ce pèlerinage, justement, comme vous dites, peut-être qu'on se rend compte qu'on marche trop vite, qu'on a oublié de ralentir et qu'on revient à quelque chose d'essentiel. Et en ça, la marche, je pense, peut nous amener à cette démarche intérieure. Comme je le dis, on peut marcher d'un point A à un point B, et c'est très bien et c'est nécessaire. Mais tout d'un coup, on peut aussi découvrir que la marche, c'est tellement autre chose. Et j'en parlerai peut-être à un moment donné. C'est un petit peu comme les livres de Christophe. Ces romans, c'est pareil. Il y a deux façons de les lire. Soit on les lit comme des polars. C'est très bien, mais il y a d'autres profondeurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une lecture qui amène à une réflexion spirituelle parce qu'il y a autre chose derrière. Mais ça prend une démarche personnelle.
Et dans cette vie très rapide... la marche, j'imagine, nous invite à faire le chemin, comme vous dites si bien, dans le silence, dans la réflexion, vers la paix intérieure.
Vers la paix, et puis je pense vers cet amour, je pense que nous marchons vers, nous sommes tous en quête de vérité, de chaleur, mais surtout je pense en quête d'amour, d'un amour, et on marche vers... Bon, parce que vous savez, le bien-être, au fond, c'est un mot fourre-tout dans lequel on peut mettre tellement de choses, mais qui nous appartient. Mais au fond, je veux dire, d'avancer, de cheminer vers une paix, vers un amour, vers un mystère.
Oui.
Et oui, c'est un pèlerinage.
Alors, oui. Alors, Sophie, comme après chaque lecture, nous allons prendre une pause musicale pour bien intégrer ce que nous avons entendu de vous et nous reprendrons le chemin avec Christophe.
Avec plaisir. Thank you.
Alors Sophie, nous sommes de retour
oui.
avec le premier texte de Christophe qui a pour titre « Jeu des miroirs, jeu d'ombre et de lumière ».
On connaît toutes ces phrases d'inspiration qui résument en quelques mots des millénaires d'expérience et nous font parfois croire que leur formulation sommaire nous octroie un raccourci vers la sagesse à laquelle elles nous invitent. Parmi celles-ci, « Nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes », nous offre un bijou d'inspiration sur l'art de l'attention. Laissons derrière nous la métaphore et l'image évocatrice et prenons au pied de la lettre cette maxime pour sentir ce à quoi elle nous invite et mesurer ainsi la difficulté et la grandeur qu'elle recèle. Ainsi donc, nous verrions le monde tel que nous sommes. Quand je fixe mon regard sur ce qui m'entoure, je vois ce que je suis, ou peut-être même qui je suis, à l'image d'un miroir qui me renvoie le reflet de mon visage lorsque je me mire dedans. Pour me voir, pour savoir qui je suis, il me suffit donc d'ouvrir les yeux et de regarder tout autour de moi pour qu'il me soit offert généreusement la possibilité d'un reflet de ma personne. Je peux ainsi prêter attention à qui je suis là maintenant. C'est ce que l'on appelle la présence. Cette aptitude à sentir le reflet et l'essence de ce que nous sommes en fixant le monde qui s'offre à nous. Tout cela paraît si juste et si simple. On en viendrait alors à se demander pourquoi les êtres humains n'ont pas développé plus que ça, cet art de l'attention, si le monde s'ingénie sans répit à nous renvoyer face à nous-mêmes. On se demande aussi pourquoi nous vivons dans le bruit et l'agitation alors que tout est là, devant nos yeux, et qu'il n'y a qu'à regarder pour honorer ce rendez-vous. En vérité, souvent dupés par la facilité spirituelle, on oublie bien souvent que la présence est une conquête et non pas un don naturel de l'être humain. Les pratiquants assidus à la méditation ou à n'importe quel autre art de l'attention savent très bien combien cet état est instable et que nous passons notre temps à nous fuir plutôt qu'à nous trouver. La vraie rencontre n'est pas tant avec celui ou celle qui se cherche, mais plutôt avec celui ou celle qui s'évite. C'est précisément là que la petite phrase renferme toute sa sagesse. Car autant il est facile et presque bucolique d'être en accord avec elle lorsque l'on observe un paysage ou un ciel étoilé et que l'on accède presque instantanément à un sentiment de beauté et de grandeur d'âme auquel il est facile de s'abandonner. Autant cette petite phrase devient inaudible dès lors que l'on regarde des aspects moins joyeux du monde. A-t-on vraiment envie de savoir qui nous sommes devant une scène violente de l'actualité ou une cheminée d'usine qui rejette des fumées polluantes? Eh oui, car le monde est aussi fait de cela et nos vies quotidiennes sont rarement remplies de ciel étoilé et de jolis paysages, mais plutôt de passants qui font la tête, d'un ciel gris et bouché, de conjoints qui nous tombent parfois sur les nerfs et d'actualités déchirantes. Tout comme le miroir du matin nous renvoie l'image de nos rides, de nos cheveux défaits ou grisonnants et de nos visages encore gonflés par des nuits tourmentées, le monde nous renvoie aussi les reflets de notre nature que nous ne sommes pas toujours prêts à affronter. Cette nature que nous nous employons à fuir par la dissipation systématique de notre attention grâce aux écrans, aux images, aux divertissements et aux bruits ambiants incessants. La société moderne ne s'y est d'ailleurs pas trompée. Tout est là pour organiser un régime totalitaire d'absence et nous éviter à tout prix la seule rencontre qui soit digne d'attention avec notre condition humaine limitée, imparfaite, incohérente, tordue, menteuse, incomplète, etc. Soyons honnêtes. Les guerres me renvoient mes violences, les injustices mes iniquités, la pollution mes salissures. Les abus, mes inconduites. Mais nos ingénieux égaux, magnifiques détourneurs d'attention, nous protègent de ces reflets disgracieux en utilisant les mots du monde pour nous convaincre que nous ne sommes pas comme le monde et que lui et moi faisons bel et bien deux. Je me scandalise devant la guerre pour m'assurer que je suis un homme, une femme de paix. Je m'insurge devant le racisme pour me garantir que je suis tolérant. Entre le monde et moi, il y a un autre monde. Un écran de fumée, un concasseur d'attention destiné à filtrer ce que je dois retenir de ma personne pour ne pas me sentir en danger devant mon incontournable condition humaine. Cette petite humanité qui nous hante et que nous craignons de voir dans le miroir du monde est pourtant la seule essence digne d'attention, parce qu'elle est l'obscurité fondamentale de laquelle peut sortir la lumière. Pratiquer l'art de l'attention, c'est donc porter nos yeux sans complaisance sur la vérité de nos ombres et faire surgir par cette folle sagesse la lumière de nos âmes.
Encore une fois, beaucoup d'inspiration. Justement, comment vous interprétez, Sophie, ce texte, ce premier texte de Christophe?
En fait, je vous dirais qu'il, pour moi, il l'interprétait après, je ne sais pas, je pense qu'il y a mille façons de le vivre, et j'invite peut-être même les auditeurs à le réécouter pour voir aussi ce qui les interpelle. Mais la façon, moi, dont je l'interprète, dont je le ressens, c'est cette vision que nous avons du monde, c'est-à-dire qu'au fond, vraiment, le monde, est-ce que le monde, il est tel que nous sommes
tel que nous le percevons.
Exactement. Ouais. Et qu'au fond, le monde est une perpétuelle invitation, au fond, à se rencontrer. Mais avec l'honnêteté de dire, oui, c'est facile de voir ce qui est beau, ce qui est magnifique. Mais tout d'un coup, se rencontrer dans quelque chose qui l'est moins, c'est plus difficile. C'est exactement pour moi comme c'est facile d'aimer ce qui est beau. C'est facile d'aimer un conjoint, une conjointe, parce qu'il est beau, parce qu'il vous aime, parce qu'il a des qualités. Mais tout d'un coup, l'aimer dans ses défauts, l'aimer dans ses travers. Tout d'un coup, parce qu'au fond, il nous renvoie à ce que l'on est. Et donc, oui, c'est-à-dire que c'est facile de dire ça. Le miroir, le miroir du monde, tout d'un coup, comme cette fameuse phrase, nous ne voyons jamais le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Mmh. Oui, c'est une phrase, mais elle, en profondeur, je veux dire, elle appelle à une réflexion extrêmement profonde et pas si simple et pas si facile que ça. Je pense qu'il demande beaucoup d'humilité.
Il y a un proverbe bouddhiste qui dit « Soyez vous-même en toutes circonstances et vous verrez la réalité telle qu'elle est ». Oublions toutes les couches que notre vie nous a laissées, regardons telle que nous sommes et nous verrons la réalité telle qu'elle est.
Mmh. Oui, je pense que, et en même temps, je pense que c'est parce que aussi la réalité telle qu'elle est, c'est l'appréhender aussi dans l'instant. Et l'art de la présence, je pense que c'est ça aussi, c'est développer dans l'instant une vision du monde, non pas comme elle m'arrange, hein, mais véritablement pour traverser le miroir, au fond, de l'illusion, je pense. Et donc, peut-être, en effet, traverser ces couches, mais c'est aussi s'arc-bouter, s'appuyer sur qui nous sommes en réalité, en profondeur, dans notre condition humaine, et quelle est la porte d'entrée, non pas de la laideur, mais de la beauté, de la lumière. C'est-à-dire ce que l'on croit, c'est-à-dire tout d'un coup se voir en vérité, se voir tel que nous sommes. Tout d'un coup, je veux dire, c'est la vérité ne blesse jamais. La vérité peut faire peur, la vérité peut nous brasser, mais ce qui est vrai nous touche au cœur. Et donc tout d'un coup, si j'appréhende le monde avec des yeux de vérité, de présence, et non pas tel que je voudrais qu'il soit, mais tel que je suis, et je suis profondément humaine. Et c'est une chose que j'apprends, que Christophe m'apprend sur le chemin, c'est-à-dire à porter un autre regard sur le monde, parce que je porte un autre regard sur moi-même, sans me juger, ou en essayant au moins de ne pas juger mes travers, mes défauts, mais de dire « c'est une richesse, c'est une porte d'entrée ». Il le dit d'ailleurs, vers la lumière. Et ça, c'est une démarche exigeante, difficile, mais magnifique.
Et la marche peut nous y amener, justement.
Absolument, Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose dans qui le fait de marcher nous amène aussi vers des marches, de voir le monde. Je veux dire, quand on marche, le monde, il est là, il nous est offert. Comment est-ce que je le vois? Comment est-ce que je le perçois? Comment est-ce que tout d'un coup, je perçois quelque chose qui peut être magnifique, mais tout d'un coup, de voir un truc qui... Je me dis, ça vient polluer mon paysage. Non, peut-être que ça ne vient pas le polluer, peut-être que ça vient l'enrichir. Mais autrement, pas là où je m'y attendais. C'est une invitation permanente. La marche, je pense, est une, dans cet esprit-là, est une invitation permanente à une démarche intérieure et à voir le monde avec d'autres yeux.
C'est une belle provocation. Sur ce, Sophie, nous prenons une autre pause musicale pour bien intégrer ce que nous avons écouté depuis quelques minutes, et on revient avec le deuxième texte de Christophe.
Avec plaisir.
Sophie, nous passons maintenant au deuxième texte de Christophe, « Le roi est mort, vive le roi !»
Dans le jeu d'échecs, les expressions « échec » et « échec et mat » signifient respectivement en arabe « le roi » et « le roi est mort ». L'échec fait ainsi référence à une mise en danger du roi, alors que l'échec et mat annonce plutôt sa mise à mort. La mise en échec oblige à un mouvement défensif en vue de fuir une menace imminente. Cette manœuvre s'effectue selon des déplacements et une liberté de mouvement souvent restreinte. Dans l'échec et mat, en revanche, le roi meurt parce qu'il ne peut tout simplement plus bouger. Il n'a plus d'échappatoire et il meurt non pas d'être tué, mais d'être confiné dans un réduit immobile. Dans l'échec, il n'y a pas mort d'homme, mais restriction de l'espace de jeu et donc du mouvement. Il n'est pas un fiasco, mais plutôt un resserrement des options. Pour les êtres humains que nous sommes, avides de liberté et de liberté de mouvement, la restriction est insupportable. L'hyper-individualisme occidental instaure cette idée que la maîtrise de notre vie passe justement par la liberté et l'exercice de notre volonté sur les choses. Le recul des religions institutionnelles et des grandes idéologies structurantes nous a laissé devant cette immense responsabilité de décider par nous-mêmes ce que devrait être notre existence, dont il faudrait supposément devenir maître. Ceci a non seulement ouvert le jeu de notre vie comme jamais, quitte à ne plus savoir où donner de la tête, tant l'éventail des possibles est vaste, mais nous a aussi inscrit dans une peur viscérale de l'échec, tant il n'y a rien de plus douloureux que de se trouver restreint là où nous avions l'intention d'être les maîtres du jeu. Devant ce buffet de vie, la difficulté essentielle est celle du choix. Choisir, c'est prendre le risque de se tromper et donc d'être en échec. Plus le choix est vaste et plus le risque est élevé. Comme si la vie n'était qu'un jeu de questionnaires à choix multiples dans lequel une seule case donnerait le bon point. Apeurés par ce vertige décisionnel, nous préférons souvent laisser le jeu ouvert pour nous donner ce semblant de liberté de choisir qui n'en finit jamais. Résultat, nous nous éloignons de tout engagement et donc de toute responsabilité. Il est là peut-être le véritable échec. À cette aspiration de devenir les rois et les reines de nos échiquiers personnels, s'est adjointe une modification radicale de notre rapport au temps qui nous a donné à penser que le jeu devait aller plus vite que jamais. Il est, semble-t-il, urgent de vivre. Installés dans une conception linéaire du temps dont la seule certitude est celle de mourir, nous, occidentaux, avons ce sentiment que nos destins se jouent parfois sur un seul coup de dé et que pour toute décision, il faut non seulement faire le bon choix, mais que celui-ci est irrémédiable. Au cœur d'une société malade du temps, revenir en arrière est une gageure. Pourtant, ce qui ne se rattrape pas, ce qui ne se répare pas, est une richesse perdue dans les couloirs du passé, un gâchis, un échec. On ne répare plus, on renouvelle, on mise sur le changement, la mobilité, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, bref, tout ce qui garde les options ouvertes. Le retour en arrière n'est jamais très loin d'être le réflexe des arriérés, tant le passé est considéré comme irrécupérable. Nous indexons nos vies au temps, et celui-ci file trop vite pour reculer. Le faire serait une perte de vie. Dans cette folie temporelle, et pour paraphraser Corneille dans le Cid, nos coups d'essai doivent donc obligatoirement être des coups de maître. Impensable dictature de la réussite au cœur de nos modèles sociaux inégalitaires dans laquelle seuls les maîtres semblent trouver leur place. Revenons pourtant un instant au jeu d'échecs. Étonnamment, le roi n'est pas réputé comme étant la pièce la plus importante. On lui préfère souvent la reine qui bénéficie d'une liberté de mouvement et de déplacement pleine et entière. Or, que découvre-t-on ? D'une part, qu'il devient le cœur du jeu quand justement il est mis en échec. Étonnant paradoxe, c'est lorsqu'il est en échec qu'on reconnaît le roi. La reine, en dépit de ses choix toujours ouverts, finit souvent par se faire manger. D'autre part, en dehors des pions, il est la pièce la plus handicapée de toutes puisqu'il ne se déplace que d'une case à la fois. Réfléchissons-y. Pour nous qui voulons être les rois et les reines des échiquiers de nos vies lancés à pleine vitesse sur les autoroutes de nos existences, rappelons-nous que pour être roi, il faut être limité en mouvement et mis en échec. Parce que de la restriction des choix naît le courage, l'engagement, le discernement, l'inspiration, la créativité et la royauté. Ça, ça ressemble à la vie.
Oh, formidable. Alors, encore une fois, comment vous interprétez ce texte ? Qu'est-ce qu'il vous dit,
alors,
ce texte ?
Moi, ce texte me touche énormément par rapport justement à bon, y a, je dirais, ce qui moi, c'est cette notion de restriction, c'est-à-dire cette notion tout d'un coup de pouvoir découvrir que on peut être libre dans un espace réduit. Et au fond, ça va à l'encontre de beaucoup de choses, parce qu'au fond, on se dit, mais non, la liberté, c'est la liberté de mouvement, c'est le temps, c'est... Et tout d'un coup, cette notion de, entre guillemets, mise en échec, là encore, elle nous invite à une démarche intérieure. Et puis, évidemment, il y a la notion de choix. Qu'est-ce que le choix, je veux dire ? Et puis, le fait de vouloir absolument être les maîtres du jeu. Et si, au fond, nous nous laissions un peu plus faire par la vie ? La vie, Dieu, ce quelque chose de mystérieux et de plus grand qui, tout d'un coup, peut-être, nous invite, quand on est réduit, par exemple, si on fait une chute, si à un moment donné, moi, à un moment donné, j'ai eu un problème au genou, j'avais de la difficulté à marcher, est-ce que je peste ? Est-ce que je me dis, merde, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller faire ce que je veux ? Ou tout d'un coup, de me dire, et si, au fond, cette restriction du moment était une invitation d'une marche intérieure.
Mmh, oui.
Donc là aussi, c'est quelque chose que Christophe m'apprend aussi sur mon chemin. Et puis, quand il parle aussi de ce passé qui a l'air... on fait quelque chose, souvent, quand on fait des séminaires avec lui, je veux dire, en fin de journée, on prend un temps de pause et on fait une relecture de la journée pour y goûter... Peut-être un temps soit de désolation, mais aussi de consolation. Et de voir que... Donc, le retour en arrière, c'est pas pour être passéiste, c'était mieux avant, c'est ridicule. Mais là où ça nous invite dans le présent. Et tout d'un coup, le temps n'existe plus, il n'y a plus de temps linéaire. Je veux dire, dans l'instant, je revis ce que j'ai vécu peut-être 2-3 heures ou quelques jours avant, et je suis dans l'instant d'une émotion, d'un sentiment qui parle de qui je suis. Voilà. Et puis, c'est aussi cette notion de vouloir toujours dominer les choses, maîtriser les choses, qu'il y a quelque chose de bon, mais parfois, il y a quelque chose, et si je me laissais prendre et faire, par peut-être la volonté divine.
Oui, de vivre le moment présent malgré les difficultés, les obstacles.
C'est même pas malgré, je dirais avec.
Avec.
Avec comme un support, c'est-à-dire au fond de le voir. C'est pas toujours facile, oh là là mon Dieu, ce serait bien prétentieux de ma part, mais tout d'un coup de dire... Waouh, bien sûr, quand ça vous tombe sur le bon, comme j'imagine, quand on marche, on a une ampoule au pied, je veux dire, oh, wow, ça fait mal, tu vois, de dire, ok, bah peut-être que c'est le moment de m'asseoir, de me reposer, de me masser le pied, et j'en sais rien, peut-être que tout d'un coup, je vais voir un oiseau que j'aurais pas vu à ce moment-là, je vais croiser quelqu'un qui va s'arrêter, qui va me tendre la main. Voilà, c'est plutôt que de dire, ah non, je vais y aller à marche forcée, et puis je vais y aller, et je veux pas être en échec, je dois être là à telle heure.
Oui.
Non, tout d'un coup, c'est de dire, ok, là, je suis restreint, réduite dans l'instant. C'est une invitation, encore une fois.
Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, et marqué plusieurs personnes. Il est de Viktor Frankl, qui était dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la liberté de mouvement, évidemment, elle était très limitée. Marche quotidienne, peut-être. Mais dans son livre, « Découvrir un sens à sa vie », justement, il parle de liberté. Il dit qu'il était libre malgré les contraintes. Mm-hmm. C'est un peu ce que vous dites, là.
Oui, je pense.
Le carcan de certains obstacles fait en sorte que nous pouvons quand même être libres.
Oui, et en même temps, ça amène aussi à quelque chose qui est la possibilité d'un discernement aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose que Christophe nous invite à faire. Ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus loin. Non. Mais je pense que oui, tout d'un coup, c'est... moi, je pensais, en lisant ce texte, je pensais à Mandela aussi. Je veux dire, Mandela, il a passé 20 ans dans une prison. Je veux dire, il aurait pu mal finir. Cet homme s'est battu, cet homme était libre, cet homme a écrit, cet homme... Alors évidemment, ce sont des exemples, ce sont des cas extrêmes, ce sont des grandes figures. Mais ces grandes figures sont là, quelque part, pour nous donner le goût de ça. Et donc, de dire... Bah oui, l'échec, vaincre la peur de l'échec, ça commence peut-être tout simplement par, encore une fois, je veux dire, à se tourner vers soi et dire à quoi je suis invité, ce qui m'est ôté m'invite à gagner quoi d'une certaine façon.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est votre choix de mettre en évidence le choix, justement, parce que dans la marche, il y a toujours des choix, il y a des croisées de chemin
absolument,
aussi.
Absolument, absolument.
Alors à nous de choisir et de trouver le bon chemin ou de découvrir sur le chemin qu'on a choisi, qui était connu peut-être, de trouver de belles choses en observant, en
absolument,
prenant le temps,
absolument,
en étant dans le moment présent.
Ouais. Ouais. Oui, c'est ce libre arbitre, ce libre choix. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Et peut-être aussi se laisser guider... par quelque chose qui peut être aussi mystérieux et croire que peut-être ça nous appartient, mais peut-être que ça ne nous appartient pas tant que ça. Mais ça, c'est encore autre chose.
C'est autre chose. Alors Sophie, encore une autre pause musicale pour réfléchir à ce que nous avons discuté. Alors Sophie, nous en sommes au troisième texte. Il était une fois en territoire ennemi.
Alors que la guerre faisait rage, une tempête de neige surprit un groupe de chasseurs alpins qui avait été envoyé en éclaireur sur les crêtes du massif. Après avoir erré plusieurs heures dans la bourrasque, perdant progressivement tous leurs repères, ils étaient épuisés et affamés. L'espoir de retrouver leur chemin s'amenuisait et leur fin était proche. Une lueur se fit jour lorsqu'ils devinèrent la silhouette d'un homme s'approcher d'eux. Sa voix brisa le bruit du vent et les soldats comprirent qu'il voulait les conduire à son refuge où ils pourraient passer la nuit en attendant la fin de la tempête. Craignant un piège, les soldats pointèrent leurs armes, mais le regard de l'homme ne laissait planer aucune suspicion sur ses intentions. Ils le suivirent et acceptèrent l'hospitalité qu'il leur offrait avec compassion. Alors que les militaires allaient s'endormir, il les provoqua par des paroles fortes qui claquèrent comme un coup de canon. « Inutile de dormir, car vous ne trouverez pas le repos. Vous épuisez vos êtres à traquer l'ennemi. Vous ne le trouverez pas. Vous trahissez vos âmes à tuer vos ennemis. Vous ne les vaincrez pas. La guerre que vous menez est perdue d'avance. » La force de ces paroles n'avait rien de violent. Elle semblait au contraire animée par un amour sans concession et portait l'empreinte d'une implacable vérité qui taillait à vif dans le mensonge. « Tais-toi, vieil homme !» dit le chef de peloton. « Tu vas ruiner le moral de mes hommes !» Le plus ancien des militaires s'adressa à son chef et lui dit « Attends, laisse-le parler. Au pire, tout ceci ne sera que le délire d'un pauvre bougre !» Et l'homme continua. « Bénissez l'ennemi, car par lui, vous découvrirez la paix. Accueillez-le chez vous, embrassez-le, il déposera les armes. L'ennemi est armé du désespoir d'être aimé. Il serre le poing pour supporter l'intolérable absence de caresses. Il pousse des cris de guerre, car personne ne lui souffle des mots d'amour. Il saisit ses victimes à la gorge, à défaut d'être lui-même pris par le cœur. Entendez le gémissement de l'ennemi qui réclame son étreinte. Il tue et incendie au dehors parce qu'il meurt et s'éteint au dedans. Hors d'ennemi, vous n'en voulez pas. Lorsqu'il frappe à votre porte, vous regardez par la fenêtre et empoignez votre fusil pour l'effrayer. Vous convoquez des tribunaux d'exception et prononcez sans justice des sentences de mort. Vous rassemblez le peloton d'exécution et ordonnez de tirer sans réserve. Puissiez-vous entendre qu'en agissant ainsi, vous vous condamnez. Si vous tuez l'ennemi, il se relèvera et tel un fantôme, il reviendra hanter vos nuits et jusqu'à ce que vos bras s'ouvrent et lui donnent la chaleur dont il a faim. Tu délires, vieil homme ! Si nous ne tuons pas nos ennemis, ce sont eux qui viendront à bout de nos vies, rétorqua le chef de peloton. Vous protestez contre les tortures du monde, dénoncez la violence des hommes, manifester contre la guerre, mais c'est vous contre qui vous devriez protester, vous que vous devriez dénoncer, vous contre lesquels vous devriez manifester. Car les seuls ennemis qui existent sur terre, ce ne sont pas ceux que vos chefs vous montrent. Ces ennemis, ceux que vous pourchassez jour et nuit, ne sont que vos ombres. Regardez-les, fixez-les dans les yeux, c'est vous que vous verrez. Car la seule guerre qui existe est celle que vous livrez contre vous-même. Éteignez ce conflit et vos ennemis disparaîtront. » Touché par les paroles du vieil homme, un des soldats demanda « Cet ennemi dont tu parles, le nôtre, est-il fort et puissant ?»« Oh, il est maître dans l'art du camouflage et de la propagande. Il se terre dans les arcanes de vos âmes et surgit par surprise pour planter son poignard dans votre cœur. » Puis il propage le mensonge et parvient à vous faire croire que l'autre est l'assassin. Alors il vous prête le poignard pour que vous puissiez à votre tour venger la blessure qu'on vous a infligée. Il vous érige en victime pour vous donner la force d'assassiner le bourreau. Mais tout ceci est faux. Moi, je vous dis que l'ennemi est un enfant inoffensif, abandonné le long de la route de vos histoires. Il attend qu'on vienne le chercher. Il retient dans votre mémoire tous les souvenirs dans lesquels il a été mal aimé. Il les ravive sans cesse pour vous inviter à lui dire enfin les mots de vérité qui nettoieront sa souffrance. Ne l'ignorez pas, car il est source de paix. Que diriez-vous de parents qui laisseraient leurs enfants sur le côté de la route ? L'ennemi est votre enfant. Prenez-le par la main, embrassez-le infiniment. Relevez la tête et posez vos yeux sur le monde. Ceux que vous traquez auront disparu. Votre monde sera en paix. Le monde sera en paix. vous serez en paix.
Et voilà. Alors marcher, c'est aussi une quête de paix. C'est ça.
Absolument.
Oui.
Je pense que marcher, c'est aussi une quête de paix. Ce texte nous invite, là encore, et vraiment, j'invite les auditeurs, s'ils le souhaitent, à le réécouter, à méditer, à sentir ce qui vient les interpeller, les toucher dans ces mots, dans cette balade de mots. Et tout d'un coup, ça aussi, c'est sur mon chemin, Christophe nous invite à véritablement, et on va parler un petit peu plus loin de la voix des mains, mais à voir que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. C'est d'ailleurs un des propos essentiels, qui est un des prétextes dans son premier roman, Les manuscrits de la main morte, et au fond d'apprendre à voir que le premier ennemi, il est dans notre cuisine. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, quelque part, on est en guerre contre, un objet qu'on casse, ou notre conjointe, je veux dire, mais c'est déjà une petite guerre, mais au fond, l'ennemi, ce n'est jamais l'autre, c'est nous-mêmes. Ça prend du courage, hein. Comme la marche, ça prend du courage.
Mais justement, j'allais dire que la marche nous aide à comprendre, à accepter le passé pour mieux repartir.
Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est tout d'un coup, c'est aussi prendre un temps d'arrêt et regarder qui est là vraiment, en fait. Je suis sûre que quand on marche, j'imagine, quand j'ai lu ces textes magnifiques de ces femmes qui marchaient sur Saint-Jacques, je veux dire, l'ennemi, il doit être là régulièrement. L'ennemi qui est notre fatigue, notre peur, notre renoncement, les jugements qu'on a sur nous-mêmes, ce sont l'ennemi, les jugements d'ailleurs, la sévérité. Et je pense que quand on marche, mon Dieu, que quand on marche avec cette dimension spirituelle et sacrée, l'ennemi, je veux dire, il doit être là en permanence. Mais en fait, ce n'est pas un ennemi. C'est un enfant qu'on doit prendre par la main. C'est tout d'un coup avoir ce courage, cette humilité de voir qu'au fond, le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
D'où l'importance de marcher tous les jours, justement, pour reconnecter avec notre enfant.
Oui, et puis je pense que c'est une marche, mais ce n'est pas n'importe quelle marche. C'est-à-dire que je pense que, là encore, je veux dire, c'est de trouver un rythme, comme un chemin spirituel nous apprend à découvrir un rythme. Je pense que c'est un apprentissage difficile, mais magnifique.
Mmh, oui. Et il y a d'autres textes de Christophe qu'on peut consulter sur son site, justement,
absolument,
c'est ça?
Absolument, oui. Vous pouvez aller sur son texte, je pense qu'on mettra, c'est christophe-roudufort.com, de toute façon, je pense que vous mettrez ça sur votre site.
Voilà.
Et donc, et je vous invite, il a, entre autres, à découvrir ces deux romans, Les manuscrits de la main morte et L'algorithme de Rebecca Mendelssohn, qui sont encore, comme je disais, deux polars, deux thrillers absolument palpitants, mais... qui recèle de phrases de sagesse, d'enseignement. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est une autre démarche. On a deux façons, plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de marcher, il y a plusieurs façons de lire ces textes et ces romans.
Oui, comme nous venons de le faire. Sophie, encore une autre pause musicale. Et après quoi, nous parlerons de la voix des mains.
La voix des mains, absolument. Merci.
Sophie, nous parlons maintenant de la voix des mains. C'est quoi la voix des mains?
La Voix des Mains a été fondée donc justement par Christophe Roudufort en 2016. Et d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure des manuscrits de la main morte en lisant ce livre qui est un roman. C'est un prétexte au fond, puisque dans ce livre, il parle de La Voix des Mains. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un chapitre qui s'appelle « Du mythe à la réalité ». Et donc, Christophe, c'est un chercheur spirituel depuis plus de 20 ans. Et il a fondé en 2016 cette voix des mains, qui est qu'il appelle le noble combat. L'art de se désarmer pour faire surgir sa force à partir de cet organe d'essence que sont nos mains. Mmh. Et il est parti de ce postulat, une phrase qu'il avait entendue dans son cheminement spirituel, qu'au fond, le summum de la spiritualité, où il le dit d'ailleurs dans les manuscrits de la main morte, « La plus grande sagesse de l'homme, c'est de transformer un poing qui s'apprête à frapper en une main qui caresse. »
Ah.
Et il est parti de ça, puis il a pris ça au pied de la lettre en disant « Mais si je m'assieds, est-ce que, oui, c'est sûr, mon poing, il est fermé, j'ouvre la main. » Mais... Et là, il s'est dit « Mais est-ce qu'au fond, ça pourrait passer par le cœur, pas par un mécanisme automatique ?» Et là, il s'est assis, et à force de recherche, c'est aussi un scientifique, il est professeur en gestion de crise à l'Université Laval, Christophe est quelqu'un d'extrêmement concret. Et donc, il s'est appuyé aussi sur des livres, des revues scientifiques par rapport au rôle de la main dans notre vie, dans notre cortex aussi cérébral, enfin bon. Et il a développé ce qui n'est pas une technique, mais ce qui est vraiment une voie. Mmh. Et où on est invité à s'asseoir sur une chaise, parce que tout se passe dans les mains. Et c'est un art martial parce que c'est un combat. C'est un combat parce que l'on va se rencontrer à partir de nos mains. Et à partir de 21 prises ou 15 prises et dons de mains, des prises très, très spécifiques qui sont des grands archétypes de la façon dont nous appréhendons le monde et la vie, la façon dont nous pouvons parfois nous sentir impuissants, parfois repousser les choses, parfois les accueillir, parfois juger. Et voilà, donc il a vraiment développé cette voie et que j'ai le bonheur aujourd'hui avec mon ami Frédéric Léotard de commencer à retransmettre.
Quel genre de prise, quand vous parez de prise et d'art martial, est-ce qu'il y a des techniques particulières ?
C'est pas une technique, je dirais, à la radio, c'est difficile d'en parler, mais par exemple, si je mets les mains devant moi, qu'on appelle, je vais la nommer, c'est la prise du joueur, qui est au fond, si simplement vous fermez les yeux, vous mettez vos mains devant vous comme ça, et tout d'un coup, avec des mains engagées, elles appellent quelque part à « qu'est-ce que je repousse là ?»« Qu'est-ce que je repousse dans ma vie ?» Alors, et au début, ça va être quelque chose peut-être d'extérieur. Je repousse un regard, je repousse une phrase qu'on m'a dite. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui va, au fond, à partir de la porte d'entrée de la voix des mains, qui sont les sensations. C'est un organe des sens. Il faut savoir qu'on a 30 000 capteurs au bout c'est 30 000 capteurs, plus de 30 000 capteurs au bout des doigts. Et la paume, les doigts, est dans un engagement martial des mains. Tout d'un coup, je vais, à partir des sensations, rentrer, je dirais, d'abord dans une ambiance, dans un goût de moi-même, dans un sentiment. Et puis ça va faire résonance, ça va résonner peut-être avec un moment de l'instant, et puis peut-être une petite situation du présent, voire même du passé. Et tout d'un coup, ça va me permettre à un moment donné de me voir là encore, comme je disais, c'est-à-dire que si à un moment donné j'en veux à l'autre, je lui en veux, et tout d'un coup de voir, il y a un retournement qui peut s'opérer, parce que les mains vont nous inviter, dans les sensations justement, à découvrir qui en vérité je repousse. Est-ce que c'est vraiment l'autre? Ou est-ce que c'est une partie de moi-même? Ce regard de colère, est-ce que c'est pas ma colère, moi, que je repousse à un moment donné? Et puis les mains, à ce moment-là, il y a des trajectoires, il y a des mouvements très précis où les mains vont pouvoir à ce moment-là, non pas s'abaisser, mais nous relever étonnamment dans un enveloppement et nous inviter évidemment à les ouvrir. Et si vous faites ce geste-là chez vous, vous verrez, l'ouverture des mains n'est pas un mouvement naturel.
Il y a d'autres exemples fascinants.
D'autres exemples?
Oui.
Oui, des prises, oui, il y en a absolument, il y en a d'autres. Il y a par exemple la prise du juge, les doigts pointés. Dans la vie, je veux dire, nous sommes, on passe la vie à pointer, on pointe ci, on pointe ça c'est moche, c'est ceci, c'est machin, c'est truc, contre l'autre, contre quelque chose qu'on n'aime pas, contre la télé, contre comme il est dit d'ailleurs dans un des textes, tout d'un coup on dit ça c'est moche et tout ça. Et tout d'un coup, ces doigts-là, ils vont se pointer l'un vers l'autre. Et étonnamment, et parce que je vais au bout de ma guerre contre l'autre, tout d'un coup, je vais être touchée là encore. Qu'est-ce qui va être dans mes poings, dans mes doigts pointés? Qu'est-ce qui va être à l'intérieur de mes poings refermés? Et il y a un moment donné où quelque chose va faire ça. Les doigts, au fond, vont s'adresser, non pas pour me condamner, pour me juger, mais pour accueillir véritablement celui ou celle que je juge en moi. Et c'est un désarmement, parce que quand tout d'un coup vous voyez qui véritablement est l'ennemi, il n'y a plus d'ennemi, ça devient un adversaire. D'ailleurs, en art martial, on ne parle pas d'ennemi, mais d'adversaire, et on respecte son adversaire. Et la porte d'entrée, là encore, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie de voir. Ce n'est pas toujours agréable de se voir en colère, jaloux, envieux, critiqueux, critiqueuse. Mais tout d'un coup, ça parle d'une histoire. Et à ce moment-là, il y a de nouveau les mains, il y a un enveloppement et une ouverture. Et c'est un, je pense, en tout cas pour moi, au-delà de l'apaisement, pour moi, c'est une rencontre, je veux dire, avec Dieu. C'est une rencontre avec le sacré. Parce que ces mains, il y a un moment donné où, oui, on va se prendre dans les mains, mais qui en véritablement nous prend ?
Et ce sont les exercices avec les mains, bien sûr, avec soi. Est-ce qu'il y a aussi la poignée de main qui nous rapproche de l'autre ?
Non, alors on a à un moment donné, dans notre, on a un rituel, on a un salut. Et à la fin, en effet, nous pratiquons ce qu'on appelle la chaîne d'union. C'est-à-dire que, et on peut le faire, c'est quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire qu'on se prend la main. Parce qu'au fond, le seul intérêt d'ouvrir les mains, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour le monde. Et la voix des mains, Christophe, je veux dire, l'a fondée aussi pour mieux aimer. C'est une voie de connaissance, mais c'est une voie de transformation. Et c'est parce que je me connais mieux et que tout d'un coup, je peux poser une autre main sur le monde. Je veux dire, si la main, elle est faite pour bâtir, elle est faite aussi pour blesser, mais elle est faite aussi pour caresser, pour aimer. C'est tendre les mains sur le monde. Et d'ailleurs, dans le souffle des mains que j'ai la joie de retransmettre le lundi soir à mon petit studio, dans ce qu'on appelle le souffle des mains, il y a ce qu'on appelle des dons de mains qui sont des prises dites ouvertes. Et il y a, je veux dire, des mains ouvertes, il y a la prise de l'autre, la prise du miséricordieux, voilà. Et là où tout d'un coup, c'est la possibilité de, dans un premier temps, de s'apaiser. Mais c'est bien plus que ça, la voix des mains.
Et tout ça passe par les mains, absolument.
Et absolument, et tout ça passe par les mains. Ouais.
Fascinant, fascinant. Ouais. Sophie, j'ai envie, pour terminer l'épisode, de vous demander de lire à nouveau votre poème « Marcher vers le bien-être », parce que je crois qu'il résume assez bien les propos d'aujourd'hui.
Absolument. Mais écoutez, merci de me redonner l'opportunité de lire ces mots. Marcher vers le bien-être, ça commence tout petit. Quand encore tout branlant au service de la vie, l'enfant sur ses deux jambes se dresse et s'enhardit, mû par une force farouche vers une mère qui sourit. Marcher vers le bien-être, d'abord c'est vers maman. Quelle foi considérable doit se mettre en mouvement pour trouver l'équilibre et oser cet élan, faire un pas après l'autre, tomber, se relever, capituler parfois pour mieux recommencer. Marcher vers le bien-être, c'est un pas qui grandit. À force de tentative, enfin, il s'aguerrit. Aller un peu plus loin, vertigineux désir de découvrir le monde et de le conquérir. Le pas se fait plus sûr, il se met à courir vers toutes ses tentations et ses moultes plaisirs. Marcher vers le bien-être, c'est alors se construire. C'est le temps des avoirs, c'est le temps de bâtir. Famille, travail, loisirs, on déambule alors du point A au point B sans le moindre temps mort. Et puis, un événement, souvent inattendu, nous fait réaliser qu'on s'est un peu perdu, qu'il nous manque quelque chose dans cette course folle, que ralentir le pas est loin d'être frivole. Marcher vers le bien-être redevient essentiel. Alors viennent les questions que l'on adresse au ciel. Marcher vers le bien-être, c'est oser le silence. Au creux de la nature, trouver la providence. Et au cœur de soi-même, oser s'aventurer sur ce chemin tracé vers l'intériorité, en sachant qu'à chaque pas, dans le doute et la foi, nous est offert le choix de suivre ou non la voie. Marcher vers le bien-être n'est-il ni plus ni moins que d'aspirer à être des hommes ou femmes de bien ? Marcher vers le bien-être n'est-il ni plus ni moins que le désir ardent d'embrasser le divin ?
Encore une fois, merveilleux. Sophie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui et
merci
de nous avoir invités à réfléchir sur la marche grâce à ces très beaux textes. Et au grand plaisir de vous revoir bientôt pour la balade des mots.
Avec plaisir. Merci, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier notre collaboratrice Sophie Hartung et sa chronique « La balade des mots ». Merci également à notre maître technicien Lysandre Duplay. Et merci à vous tous et toutes d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée indienne. Le véritable chemin commence quand vous sentez « oui, c'est à portée de main ». Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.